VOA Afrique,
le monde.
Les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Abidjan, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Journée historique pour la justice africaine aujourd'hui au Sénégal. Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré, notamment pour crimes contre l'humanité commis sous son régime de 1982 à 1990, vient de commencer à Dakar. Le prévenu a été amené de force au tribunal spécial qui doit le juger, d'après l'AFP. Écoutons la réaction de Clément Abaifouta, président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré.
J'ai été arrêté le 12 juillet 1985 et libéré le 7 mars 1989 en Ndjamena. J'ai passé 4 ans donc dans des conditions inhumaines. C'était de la torture, c'était de la bastonnade et de tout quoi. J'ai été obligé, n'est-ce pas, d'enterrer mes collègues pendant tout le temps de ma détention. Mais il faut dire que c'est un moment plein d'émotions, une longue marche avec beaucoup de défis, et je crois que c'est vraiment une satisfaction que je puisse voir Hissène Habré à la barre. Le lundi 20, c'est le couronnement d'une longue attente, le couronnement de beaucoup de sacrifices, et je me dis que c'est une satisfaction pour nous les victimes.
Clément Abaifouta, président de l'association des victimes des crimes d'Hissène Habré. Arrêt des négociations au Burundi à 2 jours d'une présidentielle controversée. La médiation ougandaise a ajourné sine die les pourparlers entre le camp gouvernemental et ses adversaires pour essayer de sortir le pays de la crise. Motif de l'interruption, l'absence du gouvernement. Voici le point de vue de l'ex-président burundais Sylvestre Ntibantoganya qui participe au pourparlers.
Mon analyse, c'est que peut-être il ne voudrait pas qu'on parle du calendrier électoral et du mandat du président Thierry Nkurunziza. C'est ainsi qu'ils auraient choisi cette chaise vide, éventuellement pour manœuvrer en vue d'analyser à ce qu'ils ont prévu comme élection présidentielle. Élection d'ailleurs dont j'étais candidat, mais où nous avons décidé, moi-même et 2 autres candidats, qui nous n'allons pas nous présenter compte tenu qu'elles ont été organisées sans respecter ce qui avait été préconisé par le sommet des chefs d'État. J'ai entendu dire, notamment de la part de la délégation gouvernementale, mais aussi du parti CNDD-FDD, que nous aurions peur des élections. Moi, je suis un grand partisan acharné de la démocratie, mais une démocratie vraiment pluraliste, vraiment ouverte, mais aussi une démocratie qui soit responsable.
L'ex-président burundais Sylvestre Ntibantoganya. En RDC, la province du Katanga est maintenant divisée en 4 provinces depuis la semaine dernière. Mesure qui fait suite au rapport de la commission d'installation des nouvelles provinces. Plus de précisions avec notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
C'est conformément au prescrit de la loi que la commission d'installation des nouvelles provinces démembrées a déposé et rendu public son rapport de mission de plus de 640 pages sur l'état-lieu de la province du Katanga qui est démembrée en 4 provinces. Et cela était au cours d'une séance plénière extraordinaire de l'Assemblée provinciale qui est la toute dernière en tant qu'institution. Voici l'extrait des grandes lignes du rapport lu par le président de la commission, M. Biaza, qui est un ancien directeur de la province du Katanga.
La commission s'est fait le devoir de formuler quelques recommandations acquis de droit pour donner plus de chances et de succès aux nouvelles provinces qui, d'après les prescrits de la loi, vont venir en instance dans quelques instants. La présentation du rapport par la Commission et sa prise d'acte par l'Assemblée provinciale existante enclenche les processus d'éclatement de la province.
L'installation des institutions des nouvelles provinces dans un délai de 15 jours. Pour certains, semble mal bien apprécié. Telle est l'expression de certaines réactions des députés provinciaux.
Le démembrement, ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est la loi qui a décidé. Et nous devons avoir la culture de respecter les lois.
Le moment est très douloureux. Nous avons vécu ensemble depuis la colonisation et se séparer, c'est pas agréable. Mais ce que je peux demander à tous les Katangais, c'est qu'il n'y ait pas de tribalisme.
Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, qui a réceptionné le rapport, a relevé quelques faiblesses de l'état financier de la province du Katanga, qui ne recevait que de la part du gouvernement central 6% au lieu de 40%, alors que la constitution a un caractère sacré, tout en interpellant les autorités de Kinshasa.
Nous ne voulions pas de nouvelles provinces, mais nous avons obéi à une loi qu'on ne doit pas violer. Et cette loi s'appelle la constitution. C'est la constitution qui nous amène à nous éclater aujourd'hui en 4, ici à Lubumbashi. Moïse Katumbi Chapoué dit, c'est la constitution, waouh.
Pour certains, ce sont des moments lancinants de perdre l'histoire de la mythique identité katangaise, Lubumbashi Narval Mabila, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burkina Faso, le président Michel Kafando a remercié hier son ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Denis Barry. Mesure visant à satisfaire l'armée qui exige le départ des militaires du gouvernement. M. Kafando cumule désormais les portefeuilles de la défense et de la sécurité. La Côte d'Ivoire à la recherche d'investissements américains dans la filière cacao. Plus de détails avec Félix Yepassi Zembrou.
Des discussions ont démarré à la mi-juillet entre le gouvernement ivoirien et la compagnie américaine Mars. Objectif des autorités d'Abidjan, convaincre le géant de l'agroalimentaire d'investir 70 millions de dollars dans la cacao culture ivoirienne d'ici à 2020. Abidjan semble avoir réussi son pari, du moins à l'endroit de Jean-Christophe Flatin, président de la branche chocolat de Mars. Ce dernier a indiqué que son groupe continuera à investir dans le pays et comptait étudier les possibilités d'extension des capacité en Côte d'Ivoire.
Corne de l'Afrique, la force militaire de l'Union africaine en Somalie a annoncé hier avoir lancé de nouvelles offensives contre les militants islamistes Shabab affiliés à Al-Qaïda. Des précisions avec Claire Morin-Gibault.
À quelques jours de la visite du président Obama au Kenya, les forces de la MISOM montrent des dents en lançant l'opération Juba Corridor, destinée à déloger les Shababs des zones rurales du pays. Omar Sheikh Ismaël, porte-parole des forces somaliennes, a confirmé à la VOA que deux offensives se déroulaient dans les régions de Bay et Djedo, au sud et à l'ouest de Mogadiscio. Les troupes éthiopiennes tentent également de prendre le contrôle de Dinsor, qui abrite le quartier général temporaire des Shababs, mais l'opération a rencontré une certaine résistance, selon le correspondant de la Voix de l'Amérique de la ville de Baïdoa.
Agenda africain cette semaine pour le président Barack Obama. Le chef de l'exécutif américain reçoit aujourd'hui à Washington son homologue nigérian Muhammadu Buhari pour des discussions qui porteront en priorité sur la menace posée par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Puis Barack Obama s'envolera jeudi 23 juillet pour Nairobi au Kenya. Sa première visite en tant que président au pays natal de son père. Deuxième étape de son périple africain, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour le premier séjour d'un président américain en Éthiopie. Ce voyage en Afrique intervient alors que le département d'État américain lance une nouvelle mise en garde contre de possibles attaques terroristes au Kenya. La lutte antiterroriste sera encore au premier plan donc des discussions entre le chef de l'exécutif américain et les leaders du Kenya et de l'Éthiopie. Idrissa Sedoudia.
Pendant sa tournée de 2013 au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie, le président Obama avait annoncé des initiatives pour renforcer la coopération américaine avec le continent dans les domaines du commerce, des investissements et des infrastructures. Selon lui, ses visites au Kenya et en Éthiopie visent à envoyer un message similaire, à savoir que les États-Unis sont des partenaires solides non seulement avec ces deux pays, mais aussi avec toute l'Afrique subsaharienne.
Build on the progress that's been made around issues of health and
bâtir sur les progrès qui ont été réalisés dans les secteurs santé et éducation, se concentrer sur les questions de lutte antiterroriste qui sont importantes pour l'Afrique de l'Est à cause de Shabab et de certaines tragédies qui ont frappé l'intérieur du Kenya.
Le président Barack Obama. Rétablissement des relations diplomatiques normales entre Cuba et les États-Unis. Cette mesure est entrée en vigueur aujourd'hui à 4h, temps universel, 0h ce matin, heure de Washington et de La Havane. L'ambassade de Cuba à Washington ouvre donc ses portes ce lundi. À cette occasion, le secrétaire d'État John Kerry reçoit son homologue cubain Bruno Rodriguez au département d'État. Plus de détails avec Camille Gros-Didier.
Selon le département d'État, John Kerry et Bruno Rodriguez offriront une conférence de presse commune à l'issue de leur entretien ce lundi. Washington et La Havane ont officialisé début juillet le rétablissement de leurs relations diplomatiques qui va se concrétiser par la réouverture d'ambassades fermées depuis plus de 50 ans. La Maison-Blanche a rappelé vendredi que le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays est largement soutenu au Congrès, sauf par une minorité qualifiée de bruyante et d'attachée à des intérêts partisans.
Et pour terminer, le secrétaire américain à la Défense, Ash Carter, est en Israël. Première étape de sa tournée dans les pays alliés des États-Unis au Proche et au Moyen-Orient pour les informer au sujet de l'accord nucléaire avec l'Iran. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.